Bonjour, 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 c'est Cédric pour le podcast audio de Geek Inc. Et j'ai avec moi Julien.
Et salut.
Et aussi Mathieu.
Salut.
Qui est toujours par Skype.
Voilà, exactement.
À l'autre bout du monde. Cette semaine, on va avoir une actu super chargée.
Ouais.
Alors quand je dis super chargée, c'est super chargée. On va parler de plein de choses, de jeux vidéo, nouvelles techno, comme d'hab, de
comme
manga.
Enfin, voilà, on va s'éclater.
Voilà, comme d'habitude. Et j'ai envie de dire, on va enchaîner de suite avec
les chiffres
de la semaine.
Attention.
Et pour toi, Mathieu, le chiffre de la semaine, c'est quoi ?
C'est les 18 ans de la Super Nintendo, donc enfin majeur, ceux qui l'ont connu. Donc ouais, la console était sortie en 90 au Japon et elle est arrivée chez nous qu'en 92, donc pour la petite info, j'avais 7 ans, donc c'est à peu près le, pour arriver à resituer.
C'est une vieille quand même, hein, tout ça. Là.
Ouais, c'est quand même une vieille console. Elle valait quand même pas... Enfin, c'était pas donné, hein. Il y avait... Elle valait à peu près 1400 francs à l'époque.
1400 francs, oh la vache,
ouais, 1400, ce qui fait quand même 210 euros, c'est l'équivalent d'une PSP à peu près.
Ouais, c'est hallucinant.
Donc voilà. Ouais. Elle a quand même eu un lot de très très bons jeux, donc Donkey Kong Country, enfin il y a un billet sur le blog si vous voulez aller regarder, et voilà, c'était une console marqué notre enfance.
C'est vrai que bon, on avait bon, évidemment les classiques Mario Kart, ouais, Zelda, enfin bon, voilà, du grand classique. J'aimais bien la manette,
ouais,
ronde,
ouais, ronde avec les 4 boutons de couleur, moi je suis hyper ému quand je vois une Super NES, quoi, parce que c'est marrant, mon enfance, je me souviens de Pilot Wings où je m'arrachais la tronche à atterrir sur les cibles,
et très dur,
des trucs d'atterrir mouvant, quoi.
Ouais.
Oh putain, le truc de fou, quoi. Mais c'est vraiment une pure console. Et il y a quelques semaines, j'étais à deux doigts d'en acheter une d'occas, quoi. Pour me refaire.
Ça coûte rien en plus.
Ouais, ça coûte plus grand chose. Enfin, c'est mythique.
Faut arriver à en trouver une de qui soit pas trop abîmée, quoi.
Ouais,
en plus, elle a jauni apparemment avec le temps.
Ouais,
quoi,
bah,
si
ouais,
vous en acheter une case, regardez bien qu'elle soit pas jaunie et que bon.
Ouais.
Bon, sinon, voilà, c'était mon chiffre de la semaine.
Happy birthday.
Et toi, Julien, ton chiffre de la semaine ?
Alors moi, c'est un peu plus actuel, c'est 4,8 gigabytes par seconde. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est les specs de l'USB 3. Alors on connaît bien sûr l'USB 2 qui est utilisé pour à peu près tout et n'importe quoi, pour transférer des informations entre différents éléments, différents ensembles informatiques. Et en fait, là, l'USB 3 vient de sortir, la version 1.0 qui était en gestation depuis quelques années. Ils sont enfin au point, ça devrait vraiment être passé côté industrialisation en 2009. Et donc, arrivé sur le marché courant 2009.
Premier périphérique USB 3 courant 2009.
Voilà, exactement. Et ils estiment que d'ici à 2011, il y aura à peu près 500 millions de périphériques USB 3 sur le marché.
Ouais,
c'est assez énorme. C'est des estimations.
Ouais, avec... voilà.
Mais bon, je pense que de toutes les manières, ça va dans le bon sens. C'est vrai que l'USB 2 arrive un petit peu en limite de fonctionnement quand on compare du FireWire 800. Quoi,
ouais, mais est-ce que c'était nécessaire d'avoir de l'USB 3? Ben, qu'est-ce que ça nous apportait de plus, des webcams en HD?
Non, c'est pas ça, c'est le transfert de gros fichiers, quoi, tout simplement.
Ouais.
Genre port, quand il change ou pas?
Non, exactement, voilà, c'est un point intéressant que tu abordes là, Mathieu. En fait, l'USB 3 sera rétrocompatible avec l'USB 2, c'est-à-dire que
d'accord.
Donc ça c'est vraiment c'est bien pensé, quoi, ça va dans le bon sens. Je reviens au sujet de l'import de gros fichiers. Quand tu es en train de numériser, de transférer ta caméra HD, un disque dur vers ton Mac, bah, t'es bien content d'avoir un truc qui envoie du bois. Et donc l'USB 2, des fois c'est un peu limite.
Ouais.
Donc l'USB 3 là, ça va arracher, quoi.
Ouais, voilà, pour des usages spécifiques quand même. Encore une
ouais,
fois.
Ouais, mais attends,
parce quand je vois comment Vista copie sur l'USB 2,
ouais, mais...
que soit du USB 1 ou USB 2 à 6 kHz secondes.
Ouais, non, non, t'es mauvais. Là, il est mauvais. Là, c'est ça sent troll tout ça. Là.
Et encore, les bonjours.
Les bonjours, ouais. Non, je plaisante. Mais oui, non, effectivement. Mais encore une fois, bon, évidemment, vous en avez toujours plus de débit, tout ça, ok. Sur des clés USB, je vois bien l'usage. Et encore, on va être limité après par la bande passante sur la mémoire
dur.
Elle-même ou sur
la
le
mémoire
dur,
disque dur. Ouais, ouais, il y a de la marge hein, quand même. Hein.
Ouais, mais ouais, tout à fait.
Hein, et donc en fait, pour info, il y a des tests qui ont été effectués et ça tient bien les specs, sachant que là, les 4,8 gigabytes seconde pour le transformer en octets, il faut bien sûr diviser par 8. Ça fait à peu près du 600 mégaoctets par seconde. Donc
ouais, ça fait l'équivalent d'un DivX en une seconde, quoi.
Voilà.
En gros. Ouais. Un peu moins d'un DivX.
Tu as une bonne pirate. Référence, espèce de pirate.
Pirate.
Et les films de vacances, ah, ça
ouais,
peut ouais, très bien faire la taille d'un film.
Oui, bien sûr.
Exactement. Bon, et toi, Cédric, ta news ?
Bah alors moi, mon chiffre de la semaine, c'est 2.2.
Ah.
Et c'est le nouveau firmware de l'iPhone qui est sorti vendredi. Alors qu'est-ce qu'il apporte de nouveau?
Rien du tout.
Non, finalement, il apporte pas les fonctions qu'on attendait, style copier-coller et compagnie. Voilà. Mais par contre, il y a des petites nouveautés comme Street View dans Google, qui marche plutôt bien.
Ouais.
Pour l'avoir testé, il gère le multi-touch pour le zoom et tout ça. Toujours pour rester dans carte, enfin plan plutôt, maps.
Ouais.
On a aussi quand même les directions à pied maintenant.
Ouais, ça c'est pas mal.
Parce que vu que de toute façon il est pas fait pour être utilisé en voiture, c'est nul qu'il respecte en fait les sens des rues quand il nous indique un itinéraire.
Ouais, ouais.
Donc voilà, transport en commun aussi, les horaires et ainsi de suite. Ouais. Donc ça c'est top.
C'est pas mal.
Ensuite, bon, affichage des adresses et compagnie, bon, ça c'est sympa. Partage des
points d'intérêt.
En fait, de sa position par exemple, par courrier, ou d'une adresse par courrier en fait, donc ça c'est pas mal. Puis au niveau du mail, maintenant ça y est, enfin il ramasse les mails correctement quand on l'a programmé.
Ouais, et encore, hein. Je sais pas, j'ai eu un mail tout à l'heure, il arrivait, enfin ça a merdé quoi. Je l'ai vu apparaître avant de le recevoir, c'était assez fort, donc c'était un vieux bug. Je sais pas si c'est vraiment lié à ça, mais bon.
D'accord, mais enfin, moi en tout cas ça fonctionne bien.
Ça fonctionne bien.
Bon, Safari, il y a la petite nouveauté.
Oui.
Du champ Google, machin.
Champ Google directement, bon, voilà. Ouais. Ça change pas grand chose, si ce n'est que tu gagnes un clic enfin.
Ouais, on gagne un clic, ouais. Et puis, l'ajout du téléchargement des podcasts via l'iTunes Wi-Fi Store.
Ouais, ça, c'est pas mal.
Sur l'iPhone. Donc, en fait, en gros, maintenant, vous avez une rubrique podcast dans l'iTunes Wi-Fi Store. Vous pouvez choisir le podcast Geeking.
Geeking.
Voilà. Ouais. Et vous faites télécharger l'épisode et ça vous télécharge l'épisode et vous pouvez l'écouter après dans la partie iPod.
Alors, à quand l'achat de musique
en ligne? Ouais, parce que là, on peut faire du podcast qui pourtant sont des gros fichiers.
Ouais, et pas la musique. Mais ça doit être juste pour des questions de sécurité, je pense. Vu qu'en 3G ou en Edge, on doit avoir à peu près pour une zone géographique la même IP.
Ouais.
Donc, c'est ça qui doit poser
problème. Après, point de vue ergonomie, il y a une petite amélioration aussi. Quand on est perdu dans les menus, on appuie sur la touche Home et on revient sur la première page.
La première page, ouais.
Voilà. Bon, et puis, la possibilité d'activer ou désactiver l'autocorrection du clavier.
Attention.
Qui tape n'importe quoi, des fois. Par exemple, je tape Y sur mon clavier et je ne sais pas pourquoi il me le complète avec Yann.
Je ne sais pas.
Ou je ne sais pas, un truc comme ça. Enfin, bon, c'est... Il y a quelques améliorations, mais évidemment, ce n'est pas encore... Enfin, c'est bien, mais il manque encore copier-coller, tout ça.
Exactement.
Des petits trucs sympas. Et maintenant, on passe à l'actualité, enfin aux actualités.
Oui, exactement.
Et donc, Julien, toi, tu nous parlais d'une série anglaise.
Alors, une série britannique, en effet. Alors, ça s'appelle IT Crowd. J'espère que je le prononce bien, sinon je vais me faire arracher la tête, comme d'habitude.
Voilà.
Alors, IT Crowd, c'est quoi? C'est en gros l'histoire, la vie de deux, alors un nerd et un geek qui font partie d'un service informatique d'une boîte britannique complètement déjantée avec une manager en l'occurrence qui panne rien du tout à l'informatique. Et alors ça fait des situations mais complètement hallucinantes. Alors le nerd, lui c'est un mec no life, complètement introverti. Le geek est assez extraverti, complètement débile. Enfin c'est un truc assez sympa. Il y a toujours une bonne ambiance, des situations assez cocasses et là c'est des gros fous rires en général. Alors là la troisième saison vient de débuter. Il y a déjà eu donc deux saisons, vous vous en doutez. Spéciale dédicace à la fin de la première saison qui est juste monstrueuse quoi. C'est vraiment super sympa. Et bon alors pour l'instant je crois que ça n'existe pas encore en VF version française.
Non, j'ai pas vu.
Donc pas plus mal. Hein.
Ouais, exactement. Donc ça permet un de travailler son anglais et deux de conserver une bonne traduction. Parfois, on le voyait notamment dans Friends, les blagues sont complètement différentes quand elles sont traduites.
Ouais, elles sont pourries, tu vois.
Elles sont pourries, exactement.
Elles sont pas différentes, elles sont pourries.
Je voulais pas le dire, enfin bref. Donc là, c'est une super série complètement barrée et franchement...
Enregistrée donc sur un magnétoscope anglais.
Exactement.
Ok.
Voilà. Let's go, et on enchaîne, je crois, sur une petite série américaine, Mathieu, c'est ça?
Ouais, elle est américaine, elle est diffusée depuis 2 semaines, ou 3 semaines peut-être, 2 semaines il me semble, sur TF1.
Donc c'est une catastrophe sur TF1,
si vous avez, voilà, si vous avez eu l'occasion de regarder TF1, oubliez ce que vous avez vu, et au moins essayez de capter, donc ça passe sur NBC, ou si vous avez un magnétoscope anglais, si vous pouvez le capter, la série est 15 fois mieux en VO. Donc, pour vous la résumer un petit peu, on suit Chuck, qui est c'est un gros geek qui travaille donc dans l'équivalent du Best Buy, qui s'appelle un Buy More, donc c'est des magasins un peu genre Fnac qui font que de l'électronique. Donc il est dans une espèce de magasin dans ce genre-là, et il se retrouve malencontreusement avec des images de la CIA dans la tête, et ça commence à chauffer autour de lui. Il y a la CIA, la NSA, tout ça, qui au début veulent l'abattre, et au final, on va pas vous spoiler, mais ouais, qui essaie de le protéger. Voilà. Donc voilà, et lui, il est complètement dépassé par la situation, parce que c'est un gros boulet, et que il a aucune formation d'espion, donc ça tire tout autour de lui, et lui essaie à peu près de s'en sortir. C'est une très bonne série à regarder.
Ouais, très bien.
Sur, franchement, c'est au moins la première saison qui est complète.
Exactement. Ouais, c'est excellent, et ouais, en fait, le truc qui est assez incroyable avec Chuck, c'est que il est tout le temps au milieu de situations au milieu desquelles il ne devrait pas se retrouver, avec des tueurs à ses trousses.
Le ton est assez, ça se prend pas au sérieux, en fait.
Non, voilà.
Et c'est ça qui est sympa. C'est
une parce que les espions, l'espion de la CIA, c'est une caricature. De la NSA, c'est pareil. C'est vraiment les traits
même
de caractère.
Les méchants sont caricaturaux.
Ouais, voilà. Les traits de caractère sont poussés très fort. Enfin, c'est franchement assez rigolo, et ça se laisse regarder, quoi.
Ah ouais, c'est clair. Ah, c'est hyper, c'est excellent.
Ça se regarde tout seul. Hein.
Exactement.
Donc voilà.
J'ai lancé le jingle.
Oui. Non, c'est pas grave. Et toi, Julien, donc l'OpenCL, c'est...
Alors voilà, moi c'est complètement, on sort vraiment de l'univers audiovisuel là. Je vais parler un petit peu de l'OpenCL. Alors ça ressemble vachement à l'OpenGL, et pour cause, en fait, c'est le même consortium d'industriels qui ont développé une sorte de plateforme permettant d'utiliser encore mieux les ressources de nos ordinateurs, multicœur, graphique, etc. Parce qu'en fait, on se rend compte maintenant que les développeurs de logiciels, ils sont confrontés à un problème majeur, c'est comment pouvoir exploiter au mieux les performances des machines, multicœur, carte graphique, etc. Alors en fait, OpenCL, ça fera partie intégrante de Snow Leopard. Snow Leopard, c'est le prochain OS de Mac, de Apple, pardon. OpenCL, donc, permettra aux développeurs d'accéder facilement, de manière extrêmement efficace, aux ressources des machines.
Alors, carte graphique,
mais carte graphique pour le traitement de pas forcément d'images, mais le traitement numérique, faire des calculs, quoi. Parce qu'on sait que maintenant, les GPU sont aussi performants, voire plus, que les CPU des machines, donc c'est une puissance de calcul phénoménale, et donc l'intérêt d'une utilisation est vraiment est flagrante, quoi. Donc OpenCL, ça va sortir, donc comme je vous le disais, sur le prochain OS de Apple, mais ce sera quelque chose de complètement libre, donc ce sera très certainement appliqué sur les plateformes Windows, Linux, certainement Unix, sachant que cet outil a un spectre assez large, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser sur des très très gros ordinateurs, des supercalculateurs, comme on dit, mais on pourra également l'utiliser sur des téléphones portables. Leur vocation, l'architecture est faite pour être extrêmement souple. Alors, il faut dire que Apple pousse énormément et a boosté vraiment le développement de cette plateforme. Alors, mon petit doigt me dit que ça fera partie évidemment de le prochain OS, mais deux, ça fera très certainement partie du prochain téléphone qui mettra en place, je pense. Enfin, du prochain mobile, quoi.
Ouais.
Voilà. Alors, mon petit Cédric, toi, tu parles de quoi ?
Alors, moi, c'est la Femtocell de SFR. Alors, qu'est-ce que c'est que la Femtocell ? C'est un projet qu'ils ont depuis très longtemps. C'est finalement connecté à votre neufbox d'SFR un petit appareil en Ethernet qui, en fait, fait office d'antenne 3G.
Excellent.
Ce qui veut dire qu'en fait, vous bénéficiez de la téléphonie 3G chez vous, même si finalement, vous n'êtes pas couvert par la 3G. Vous êtes dans une zone qui n'est pas couverte, vous pouvez en bénéficier. D'accord. Alors, vous pouvez régler l'antenne pour qu'elle soit privée, que seul votre mobile y accède, ou vous l'ouvrez aussi à vos voisins. D'accord. L'intérêt, en fait, des SFR, c'est de couvrir en 3G. Alors, évidemment, ils réfléchissent à un modèle. Si je laisse ouvert ma box, j'ai droit à des avantages, et ainsi de suite. L'intérêt, finalement, c'est d'étendre la couverture réseau 3G
par le biais des
utilisateurs de box et pas en posant des antennes. Alors, les problèmes sur la santé, tout ça, c'est des problèmes récurrents avec les antennes. Les antennes. Alors, se dire qu'on place une antenne réseau une antenne 3G dans sa maison, c'est un peu...
C'est un peu choubouillant.
C'est un peu choubouillant, voilà. Alors, en fait, il faut savoir qu'elles sont 100 fois moins puissantes que des antennes relais classiques.
Et donc la portée,
ça met moins d'ondes. Par contre, on ne sait toujours pas les effets, mais bon, voilà. Ouais. En termes de portée, en gros, il faut compter une bonne centaine de mètres.
C'est pas mal.
Avec obstacle. Voilà, sans obstacle, ça peut faire 400 mètres à peu
c'est
près.
C'est pas mal ça, parce qu'un Wi-Fi, c'est quoi? C'est une cinquantaine de mètres.
Ouais, donc ça permet en fait d'utiliser son réseau 3G à la maison, de passer des appels visio, surfer en 3G. Enfin bon, voilà.
Alors comment est-ce que ça se passe imagine, j'ai mon iPhone, j'ai ma Femtocell. Quand j'appelle en 3G, c'est débité sur mon compte. Enfin, ça se passe comment?
Ouais, c'est comme si on était connecté à une antenne relais en fait.
Okay, d'accord.
Ni plus ni moins, c'est comme si on était connecté au réseau de l'opérateur, sauf que c'est à la maison.
Si, génial.
C'est pas mal.
Et niveau sécurité, c'est...
Niveau sécurité, en fait, ça dialogue pas avec... Enfin, ça dialogue avec la box uniquement pour prendre un peu de bande passante et faire passer les appels. Mais
c'est minime,
on peut pas hacker le réseau, c'est comme une antenne SFR. D'accord. Ça rime à rien de hacker l'antenne, en fait. Donc voilà. D'ailleurs, il faut savoir qu'apparemment, pour s'identifier, la Femtocell dispose aussi d'une carte SIM à l'intérieur. Pour s'identifier auprès du réseau SFR.
D'accord.
Enfin, bon, voilà.
Très bien.
Ouais, c'est bien, franchement c'est... pas mal. J'ai vu ça à l'appart SFR mardi dernier avec d'autres innovations et j'avoue que c'était assez intéressant.
C'est clair.
Donc, a priori, SFR travaille dessus, mais ce ne sont pas les seuls.
Ouais, c'est pas les seuls parce qu'il y a un vrai problème de couverture 3G en France.
Ouais.
L'Edge est à peu près à partout.
Et ça peut être une solution.
Et ça peut être une super solution.
Mutualiser en fait les connexions et.
Sert du client pour.
Neuf Télécom en fait a fait ça aussi avec ses hotspots ouverts. Quand on est abonné Neuf et qu'on ouvre son hotspot, on peut se connecter chez les autres pour créer un réseau Wi-Fi. C'est sympa. D'ailleurs, moi j'arrive à me connecter quasiment partout. Hein. Ouais. Et maintenant que ça a été repris par SFR, en plus, ça englobe en plus les clients SFR. En fait, tout va se faire un peu sur le même principe. Quoi. Voilà.
Okay. Ça roule.
Alors, Life chez Google.
Life chez Google, hein, paye ton titre.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai fait un petit billet sur le blog cette semaine, une news assez sympa, je trouve. En fait, Google a négocié avec Life. Alors, Life, c'est un magazine de société américaine extrêmement connu qui existe depuis plus de 200 ans. Enfin, c'est un truc monstrueux. Enfin, pas plus de 200 ans, j'exagère. Ça va être plus d'une centaine d'années, ça, c'est sûr. En fait, Google donc, a négocié de numériser une partie, pour l'instant, du catalogue des photos issues de tous les magazines Life. Alors, ça couvre... la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe, enfin, c'est quelque chose de... Finalement, c'est le témoignage de l'histoire américaine et l'histoire même mondiale au travers des reportages qu'ont effectué les journalistes de Life. Donc, pour accéder... Alors, tout ça, c'est gratuit, évidemment. Hein.
Ouais.
J'en ai pas dit. Ça, c'est un peu une vue constante assez récurrente chez Google, quand même, la gratuité. Comment on accède à ces photos? Alors, c'est assez simple. Soit vous accédez au billet que j'ai mis un lien pour accéder directement à la bibliothèque d'images, soit lorsque vous êtes dans le moteur de recherche dans la partie images, vous tapez votre requête, les tags de recherche, sur, je ne sais pas, par exemple, Geek Inc, soyons fous, non, je ne sais pas, par exemple, Steve Jobs, espace, et là, juste après, je tape Life, L-I-F-E, source.life, voilà, je vais y arriver, source.life, et là il vous sort toutes les images qui sont issues de la bibliothèque de photos numérisées issues de Life.
Et je peux les utiliser, ces photos, elles sont libres de droit ou pas du tout?
Alors non, il y a une petite limitation, c'est tu peux pas les réexploiter, alors tu peux les réexploiter à des fins gratuites, comme n'importe quelle image, tu peux pas les vendre. Sachant qu'il y a également un business qui va être mis en place pour acheter des photos avec des droits.
D'accord. Ok.
Moi, je trouve ça génial. Attends, c'est
une grosse archive.
Voilà, une grosse archive
accessible.
Donc, c'est franchement, je trouve ça vraiment magique, quoi. Bon, alors on a de la nouvelle tech là, de nouveaux matos en perspective.
Voilà, c'est la tempête aujourd'hui
c'est
à Bordeaux.
C'est la tempête
hein.
À Bordeaux.
Ouais. C'est donc je vais parler du BlackBerry tempête.
C'est
BlackBerry Storm.
Pas mal, allez pas mal.
Ouais, du BlackBerry Storm en fait que j'ai pu aussi essayer mardi dernier. Alors là où je suis bluffé, c'est l'écran. Qui a une particularité sur ce BlackBerry, c'est que vous posez votre doigt dessus, parce que là ça va, sur le clavier par exemple, je suis en train de rédiger un email, je pose mon doigt dessus, en fait la touche sur laquelle j'ai posé mon doigt s'illumine en bleu, donc je peux là ça va, et en fait, pour valider cette touche en fait, j'appuie et l'écran s'enfonce.
Non.
Il clique en fait comme le nouveau trackpad des MacBooks, donc on gagne en fait en précision et on a l'impression en fait d'appuyer sur un clavier.
Putain, c'est génial.
Donc c'est, ouais, c'est,
alors franchement... c'est mieux que le haptique.
Ouais, c'est mieux que le haptique.
Mal, c'était intéressant parce que tu avais un retour du mobile.
Exactement. Là, en fait, c'est beaucoup mieux parce que j'appuie, j'ai la sensation de clic.
Ah ouais,
et... Sur la touche, pareil pour tout le menu, en fait.
Putain. Et en termes de durée de vie, parce qu'on se dit, ça bouge, est-ce que ça va durer, tu vois?
Bah, nous, chez BlackBerry, nous ont dit que ça posait aucun problème, que ça, a été ça avait été breveté, qu'ils avaient fait beaucoup de tests et tout ça, et que ça fonctionnait bien. Bon, je pense qu'un grain de sable qui rentre en dessous et tout ça, ça
c'est le drame. Poser...
Ouais, c'est le drame. Mais bon, enfin, évidemment, c'est la première fois qu'on voit un écran cliquable.
Ouais.
Donc c'est assez sympa, ça change en fait. C'est vrai que sur l'iPhone, finalement, quand on pose ses doigts dessus, ça valide de suite si on n'a pas verrouillé l'écran.
Exactement. Ouais.
Là, en fait, on pose ses doigts dessus, ça affiche juste la sélection, mais tant que j'ai pas appuyé et cliqué, bah voilà. Et surtout sur le BlackBerry, ça pourrait, on pourrait imaginer l'apparition d'un clic droit. C'est-à-dire qu'on poserait deux doigts, par exemple, ouais. Et en cliquant, enfin, on clique
et le multi, alors tu vois, quand je rédige un mail ou un SMS, tu es avec deux doigts pour aller plus vite. Comment ça se passe, genre?
Ben, en fait, il est pas, enfin, il gère pas le multi-touch dans le sens.
Ouais, non, mais tu vois.
Oui, ça marche.
Ça marche.
Ouais.
Tu vois, j'appuie avec plusieurs fois sur des touches différentes.
Ouais, mais forcément, il y a chaque clic, rapide. Donc t'es obligé d'alterner la pression.
D'accord.
Donc il n'y a aucun problème.
D'accord.
Ça, franchement, ça marche super bien, même pour les aficionados du clavier physique chez BlackBerry, c'est top.
D'accord.
Bon, à part ça, il est magnifique, l'écran est magnifique.
Ouais, moi j'ai vu quelques images, c'est vraiment magnifique. L'OS, ça donne quoi?
Bah, c'est pas mal.
C'est pas mal.
C'est toujours du propriétaire, mais il y a un BlackBerry Store qui normalement doit apparaître. Quoi.
D'accord.
Donc voilà, okay. Donc ça c'est assez sympa. On l'a vu cette semaine, donc il y a une mise à jour de l'iPhone, mais toujours pas de MMS. Mais
ah, attention. Alors, parce que moi j'ai l'habitude de me faire troller par mes collègues qui utilisent du Windows Mobile en me disant ouais, tu peux pas envoyer de MMS, tout ça, tout ça. Alors, il y a peut-être une alternative qui est en train d'arriver, qui est un logiciel qui est développé par Mobispin, qui propose donc, alors de manière, alors on se dit une application pour les MMS, ouais, bon, ça on connaît déjà quoi. Ouais. Mais alors là, en fait, Mobispin propose aux différents opérateurs. Entre guillemets de proposer, désolé je répète,
ouais,
proposer,
ouais.
Bref, cet outil de manière native sur l'iPhone. Alors par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Orange va proposer gratuitement le téléchargement, enfin gratuitement j'espère, le téléchargement de cette application pour faire du MMS sur l'iPhone.
Voilà, en fait ils reprennent ce qui a été développé par Mobispin. Et ils le proposent sous leur propre marque en fait,
voilà.
C'est ça l'histoire de la marque blanche. Gratuitement j'espère, mais c'est pas sûr puisque
c'est pas sûr.
Vu qu'eux vont payer l'application.
Très certainement.
Voilà. Mais Orange travaille déjà dessus a priori et l'application est déjà soumise.
D'accord.
Il n'y a plus qu'à attendre la validation, d'après ce que j'ai entendu, comme l'application en fait télé
qui est prévue. Ouais. Donc, utilisateur d'iPhone, rassurez-vous, le troll est bientôt fini.
Voilà, bientôt vous aurez du MMS.
Yeah.
Et maintenant, on va enchaîner avec nos mini-débats.
Nos mini-débats, allez.
Et toi, Mathieu, tu veux nous parler d'un sujet en particulier, manga.
Ouais, moi ce serait, c'est simplement sur une question de pratique, c'est que je voulais faire un billet sur tout ce qui est le monde de Dotac, et ce serait tellement long de faire un billet que je vais essayer de vous expliquer ça plutôt en audio. Donc ouais. Dotac, qu'est-ce que c'est? À la base, c'était 4 jeux sur PlayStation 2.
Alors Dotac,
c'était
Dotac, c'est point
Dotac, hack. C'est point hack. Hein.
Ça s'écrit point hack,
voilà,
et après deux slash.
Deux
voilà.
Slash,
ouais. Chaque série ou chaque type de truc, c'est Dotac quelque chose.
D'accord.
Donc là, par exemple, il y a le manga Dotac Sign qui est passé sur Game One.
Ouais.
Il y a Dotac Bracelet du Crépuscule. Tout ça, c'est disponible en DVD chez Biz.
Okay.
Pour faire un peu de pub. C'est disponible en manga papier, Dotac Bracelet du Crépuscule, et les 4 jeux, donc Dotac Infection, Mutation, Outbreak et Quarantine sur PlayStation 2. Alors qu'est-ce que ça raconte? Tout simplement, c'est un jeu qui est très linéaire parce que c'est concept. C'est-à-dire que vous jouez des personnages qui jouent à un jeu. Le jeu s'appelle The World, c'est une espèce de World of Warcraft, mais version Stargate. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer dans le monde avec des mots-clés, des portails et des mots-clés. Donc c'est un jeu qui a une portée immense. Et dans ce jeu, les personnages donc tombent sur des monstres qui ont bugué et qui sont invincibles. Alors, jusque-là, ça paraît pas super dangereux. Là où ça devient dangereux, c'est que ces monstres-là, s'ils tuent le personnage, la personne qui joue au jeu tombe dans le coma. Donc là, déjà, on rentre dans un...
C'est sympa.
On rentre dans un... Ah oui, non, c'est... Voilà. Donc, et Dotac, c'est parce que au moment où il y a le personnage central qui rencontre un de ces monstres, il y a un personnage qui lui donne un bracelet, le fameux bracelet du crépuscule, qui lui permet de hacker les monstres qu'il a en face de lui.
D'accord.
Ça, c'est juste génial. Vous pouvez le faire dans le jeu, en fait. Donc, vous pouvez rentrer dans le monstre, le pirater. Il devient tout petit, tout penaud, et vous n'avez plus qu'à l'achever. Donc, voilà pourquoi Dotac. Alors, la série que je voulais présenter, donc, maintenant que vous avez compris l'univers, c'est Dotac Sign. Donc, qui est toujours dans The World, où vous suivez Tsukasa, qui est un personnage un peu hermaphrodite. On ne sait pas si c'est un garçon, une fille. Enfin, il y a un certain mystère autour.
C'est
Michel, Tsukasa n'est pas régi par les règles du jeu.
On pourrait le traduire par Michel, qui serait un prénom... Ouais, ok, elle est nulle ma blague.
Voilà.
Okay. Enchaîne, vite.
Tsukasa n'est pas régi par les règles du jeu. Il n'a pas l'air, en fait, d'avoir quelqu'un qui joue ce personnage-là. C'est-à-dire qu'il essaie de se déconnecter, mais il n'y arrive pas. Il est dans le jeu et il comprend pas ni pourquoi ni comment. Il est très timide et il y a une espèce de mystère autour. Donc on suit ce personnage-là qui évolue dans The World. Donc bien sûr, tout autour de lui, il a la milice du jeu qui... c'est un genre de modérateur qui s'appelle les Chevaliers Rouges, qui essaie de l'attraper, on sait pas trop pourquoi, etc. Ça s'appelle donc Dotac Sign. Regardez-le. Il y a 26 épisodes, c'est très zen. Honnêtement, si vous attendez de l'Armageddon, faut oublier. Dotac, c'est gentil, mais c'est zen. Donc voilà, et toujours cette espèce de mystère, pourquoi est-ce qu'il y a des monstres qui sont buggés, pourquoi est-ce que les gens réels tombent dans le coma. Donc voilà, si ça a pu vous donner envie de regarder ce manga-là.
En tous les cas, moi tu m'as donné envie.
Je pense que là je vais filer
vite
voir un ami.
John Torrent.
Je vais voir John Torrent.
Ouais, mais au pire, je te les passerai. C'est disponible en DVD, hein. Il y a des coffrets qui sont sortis.
On a l'opportunité de les acheter, très bien. Bien.
Ok, comme ça je vais pas tomber dans l'illégalité.
Faisons attention. Voilà. Je te les passerai, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Ça coûtera moins cher certainement. Et donc voilà, donc ça c'était la série de Dotac Sign. Je vous dis, il y a d'autres séries qui sont dans d'autres types. Là c'est plus un seinen, c'est relativement adulte parce qu'il y a toute une... c'est relativement psychologique, etc. Il y a Dotac Brasserie du Crépuscule, c'est plus shonen, c'est-à-dire plus genre Naruto, Dragon Ball, etc. Beaucoup plus gamin. On suit d'autres personnages parce que vraiment tout est autour de The World, donc ce jeu-là. Il y a donc plusieurs séries, dont une qui se passe complètement en dehors du jeu. C'est-à-dire que justement, c'est une enquête d'une fille qui n'était pas dans le jeu et qui va essayer de comprendre pourquoi physiquement ce jeu provoque ça chez les gens.
En fait, ils ont développé...
Donc ça, c'est complètement autre chose.
Ouais, ils ont développé tout un univers et tout un tas de...
Exactement.
De histoires
donc,
parallèles.
Univers manga papier, univers shonen, univers seinen, jeux vidéo. Et ça se passe à différentes époques, mais toujours autour de ce jeu-là.
Mais c'est... C'est une constante hein, maintenant, le développement des univers. Là, je pensais à Clone Wars, en fait, la série, où en fait, ils développent vachement les personnages et c'est assez sympa. Quoi. Ils développent l'univers qui est extrêmement riche, finalement. Quoi. Mm. Et donc, ils nous font voyager, ils nous font rêver. Quoi. Ça, c'est top. Quoi. Donc là, ça me fait penser à ça. Et moi, tu m'as vraiment donné envie de me plonger là-dedans. Quoi.
Ouais.
Si j'ai le temps.
Vous pouvez l'acheter pas très très cher, parce que c'est sorti déjà il y a un petit moment.
D'accord.
Mais comme je dis, je ne pouvais pas faire un billet. Ce serait tellement compliqué à écrire.
Ouais,
que je préfère vous en parler comme ça et vous donner plus envie en discutant que voilà.
Ok, ça roule.
Et toi, c'est plutôt MotorStorm.
Ouais, alors moi, mon produit culturel, parce qu'en fait, le jeu vidéo, c'est de la culture maintenant, c'est MotorStorm, Pacific Rift. En fait, c'est MotorStorm 2, hein, tout simplement. Pourquoi ce jeu? Bon, alors je l'ai là depuis cette semaine. On l'avait vu au MGS avec Mathieu. Ça ne m'avait pas forcément traumatisé, c'était pas mal, mais bon, voilà.
La mise en scène était bien, avec le truc qui écrasait la bagnole, c'était
quand même la voiture, c'était top. Par contre, effectivement, là, j'y ai joué, c'est bourrin. Alors, quand je dis c'est bourrin, c'est encore plus bourrin que le premier. Alors, le concept, c'est qu'on arrive sur une île. D'ailleurs, par contre, la scène d'intro est bluffante. La vidéo d'introduction est... à tomber par terre. En gros, il y a une île, on est sur une île du Pacifique, une île volcanique, et en fait, on débarque en hélicoptère. C'est-à-dire que les mecs arrivent en hélico avec les 4x4, buggy, tout ça, attachés en dessous, et ils vous larguent dans la jungle. Donc, c'est un truc monstrueux. Alors, il faut savoir que les circuits sont incroyables. Alors, ils ont fait ça en fonction des éléments. Donc, vous avez les circuits eau, air, terre et feu.
Ah, c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Alors, quand vous êtes en feu... par exemple, souvent, vous avez de la lave qui engloutit le circuit. Donc, si vous passez trop près de la lave, vous voyez votre véhicule commencer à prendre feu, parce que la chaleur, en fait, aidant, voilà. Et quand vous utilisez le boost, le turbo, vous avez une jauge de surchauffe. Dans le premier MotorStorm, quand vous arrivez jusqu'au bout, vous explosiez. Mmh. Là, c'est toujours le cas, sauf que quand vous êtes près de la lave, ça monte beaucoup plus vite. voire même ça ne descend plus, parce qu'en fait la chaleur fait que bah, vous ne redescendez pas. Ils ont rajouté un petit élément, donc quand vous traversez de l'eau, eh ben, en fait, le boost refroidit, donc vous pouvez l'utiliser plus longtemps, voire même si vous êtes carrément en bord de plage et que vous êtes tout le temps dans l'eau, vous pouvez rester tout le temps en boost sans exploser.
Excellent.
Parce que en fait, ça refroidit au fur et à mesure. D'accord. Tout ça. Donc il y a des nouveautés, ben, quand vous avez des chemins dans l'eau par exemple, vous avez des petits panneaux qui vous indiquent quand l'eau est trop profonde pour éviter de tomber dedans, voilà, exactement. Vous avez en fait des petits trucs sympas quand vous êtes sur les volcans. Les organisateurs de la course ont prévu des douches où vous passez en dessous. Excellent. En voiture ou en semi pour refroidir le véhicule, sinon bah, vous ne pourriez pas faire un tour complet. Donc voilà, les adversaires sont hyper coriaces. C'est magnifique, franchement, la partie jeune.
Ouais, ouais.
Alors, pour comparer à Pure, par exemple, le jeu de quad, parce que là aussi, vous avez des quads. Hein. Évidemment, Pure, en termes de maniabilité du quad et tout ça, c'est beaucoup plus sympa. Puis surtout, vous avez tout un tas de figures et des trucs sympas. Là, c'est de la course bourrine du style, je garde à pied l'accélérateur tout le temps. Je déclenche le turbo boost. Je peux coller des pains à mes adversaires à gauche, à droite. Ouais, voilà. C'est un... En plus, d'ailleurs, toute la déco du menu et ainsi de suite me fait beaucoup penser à Burnout. D'accord. Paradise. Voilà, c'est un truc de fou furieux. C'est hyper intense, les musiques sont d'enfer. Et on a enfin une vraie sensation de vitesse. Mmh. C'était le gros problème du premier Motor Storm, qui était magnifique, mais c'était lent. Là, j'ai remarqué quand même que sur 2-3 ombres, on voyait un peu de pixels. Mais par contre, on a énormément gagné en vitesse. C'est hyper fluide. On peut jouer jusqu'à 12 en réseau ou à 2 sur écran splitté. Franchement, c'est d'enfer.
Ça aussi. Ouais. Ça, on ne pouvait pas le faire dans
on
le...
On ne pouvait pas le faire.
On pouvait pas jouer.
Maintenant, on peut jouer à deux. Au niveau des véhicules, on a moto, quad, buggy, on a des voitures classiques, on a ce qu'ils appellent des camionnettes, ces espèces de camionnettes, quoi. On a des semi-remorques.
Oh, ce truc.
Alors, les semi-remorques, moi, par exemple, j'en ai un avec un réacteur d'avion derrière. Donc, c'est énormissime.
Ouais,
enfin, les véhicules sont tunés. Il y a une vraie ambiance dans ce jeu où on voit qu'il y a tout un tas... Les pilotes sont respectés quand ils font n'importe quoi. Enfin, voilà, quoi. Il y a d'ailleurs, le mode campagne s'appelle le mode festival. Et vous avez des gens qui font la fête sur la plage et tout ça. Enfin, bon, voilà, les courses sont super sympas. Et on a un univers qui fait aussi penser un peu au Need for Speed Underground ou à des Fast and Furious, en fait.
Oui.
Les mecs qui se lancent des défis, voilà, quoi. C'est plein de testostérone. On peut personnaliser son pilote, mais choisir si c'est un homme ou une femme. On débloque des tenues au fur et à mesure. On débloque des personnalisations de véhicules. Des véhicules avec des
designs différents. Il se voit dans le pilote ?
Ouais, il se voit en fait. Le pilote se voit et dans les véhicules et surtout sur les motos et quads.
Ouais, bah oui.
Il y a des designs de buggy ou de quads qui sont hallucinants.
Et tu peux customiser tes véhicules.
Alors, on peut changer la couleur, stick et tout ça.
Ouais, ouais.
Et on a différents modèles de quads en fait.
D'accord.
Qui n'influent pas réellement sur les performances.
Comportement.
Non.
D'accord.
Par contre, quand vous faites des courses style semi-remorque et qu'à côté de vous, vous avez des motos, vous avez, les motos n'ont pas besoin des coups de poing à gauche à droite pour faire tomber les adversaires. Bon, quand c'est un camion, ça ne fait rien.
Ouais.
Par contre, quand vous êtes en camion, vous avez pas évidemment, vous ne pouvez pas donner de coups à gauche à droite. Mais en appuyant sur une touche, en fait, vous avez votre camion qui fait une embardée un peu à gauche ou à droite en fonction de la touche que vous appuyez pour défoncer l'adversaire.
Oh, putain,
les motos, il n'y a pas besoin de faire ça. Vous les poussez juste, ils passent sous les roues. Oh, ils passent sous les roues direct. Vous pouvez même les pousser, enfin, c'est n'importe quoi. Après, vous pouvez pousser les camions, tout ça. Donc c'est top, sachant que quelqu'un qui par exemple a utilisé le boost un peu trop longtemps, si vous faites une embardée, vous secouez en fait le boost et vous explosez aussi au passage, donc il faut faire super gaffe, c'est assez technique. Après il faut noter que vous avez aussi la possibilité maintenant d'utiliser le boost à fond et d'exploser et de faire exploser les autres adversaires.
Ah,
c'est-à-dire que si on sent qu'on est limite second par exemple,
ouais,
et ben on peut pousser pour exploser et faire péter aussi le premier. Comme ça, on est sûr qu'il passe pas une d'arrivée. Enfin, voilà, quoi. C'est un gros jeu de tricheurs. Enfin, bon, voilà, quoi. C'est énormissime, quoi, à tester. Et puis, il est assez cher, évidemment, comme tous les jeux.
70 euros, un truc comme ça.
Mais c'est un bon jeu de caisse pour la fin de l'année. Pour les gens qui aiment le off-road et tout ça, c'est top.
Le fun, quoi.
Graphiquement, c'est top.
Ouais.
Entre ça et Pure, vaut mieux prendre ça, quoi. Sur PS3, en tout cas, vaut mieux un Motor Storm.
C'est plus complet, en fait. Parce que Pure, t'es cantonné au quad.
Au quad. Là, c'est beaucoup plus complet, puis c'est beaucoup plus intense. Mais il y a vraiment des circuits de malade, quoi.
D'accord.
C'est un truc incroyable. C'est magnifique, hein, les décors de jungle.
Enfin, ils exploitent correctement la PS3.
En bord de volcan, tout ça. Moi, c'est. Je pense qu'ils peuvent faire mieux, hein, franchement. Mais c'est déjà du très très bon niveau, quoi.
D'accord.
Très très bon niveau.
Peut-être
Enfin voilà.
pour le 3. Ils s'en gardent pour le
Ils
Motorsport
sont gosses,
3.
ça garde son coude, ouais.
Exactement.
Parce
Bon,
que
et le
déjà, le
dernier.
1, il était
Ouais.
au tout début de la PS3, donc on pouvait excuser un peu les erreurs de jeunesse. Là, c'est vrai que le 2,
Exactement.
il arrive
Une
à un point
console un peu plus
stratégique, juste
mature,
avant
quoi.
Noël.
Ouais, et franchement, il est bien, quoi.
D'accord.
La maniabilité est un peu spéciale dans certains cas. Quand on va un peu trop vite, on sent que les véhicules tournent pas trop. Mais ça dépend aussi des véhicules qu'on utilise.
Ouais,
Enfin bon,
les
voilà quoi.
conditions terrain, etc.
Voilà, mais c'est top quoi. Et l'autre gros sujet.
L'autre du jour,
Et
hein?
ouais.
Alors c'est quoi? Eh bien en fait c'est la mise à jour de la Xbox 360. Alors on vous en parlait la semaine dernière en disant blablabla, ça va être génial. Maintenant que c'est fait, ben, moi et Mathieu et Cédric, on va pouvoir en parler un peu plus, donner notre avis de spécialiste, non
Voilà.
d'utilisateur, on va dire.
Ouais.
Bon alors moi, ça s'est passé du feu de Dieu. Alors pour vous
T'as
raconter
rien
la petite
perdu?
histoire, j'ai rien perdu. J'ai rien perdu. Pour la petite histoire, je me suis levé donc à 7h du mat le 19 novembre. Et qu'est-ce que je fais comme n'importe quel geek qui se respecte? J'allume ma console et là, bah, rien du tout. Et là, je me
Ah,
dis,
oh,
putain, c'est quoi ce
déception.
bordel? Donc du coup, je pars au boulot un peu le
Déçu.
moral dans les chaussettes, comme qui dirait. Hein
Voilà.
et puis, bah, au final, la mise à jour s'est faite vers 11h. Donc je ne pouvais pas être présent pour avoir mon truc. J'ai pas laissé ma console allumée, donc du coup, je l'ai fait le soir. Ça s'est très bien passé, 3 minutes. Plusieurs reboots de la console, dans l'ensemble,
Classique chez Microsoft.
classique chez Microsoft. Dans l'ensemble, rien à signaler. L'installation marche vraiment au poil. Bon alors graphiquement, ça n'a rien à voir. Hein. On a fait un bond en avant de 5 ans par rapport à l'existant. C'est vraiment une console qui est up-to-date, comme on dit, d'un point de vue esthétique à l'heure actuelle. Déjà que moi, je pense que pour moi, c'est une des meilleures consoles sur le marché. Je pense que là, avec une nouvelle interface, va vraiment, vraiment, vraiment falloir que la concurrence fasse gaffe, quoi. Donc, concrètement, au départ, j'étais un petit peu paumé. Parce que j'étais habitué aux anciens menus, accéder rapidement avec les onglets, là, les différents onglets. Donc j'ai du mal à retrouver mes petits. C'est beaucoup plus riche visuellement. On a pas mal d'évolutions au niveau de la recherche,
Ouais.
puisque on peut rechercher plus facilement les informations. On a plus de visuels. Par exemple, quand je chopais une démo, ben, dans l'ancienne version, finalement, je ne pouvais pas avoir de visuel sur un démo, etc. Donc, il fallait que je me rencarde avant sur Internet. Là, tu vas chercher ta démo, et là, tu as tout un tas d'informations, des screenshots, etc. Donc, c'est quand même vraiment intéressant, quoi. Donc, moi, je suis plutôt positif, mais sachant que c'est une mise à jour gratuite, on ne va pas s'en priver, quoi. Donc, pour moi, c'est
Heureusement qu'elle est
OK.
gratuite.
Ouais. Et pour toi, Mathieu?
Mais moi, j'ai été encore plus geek que toi. Enfin, j'ai attendu minuit une pour la faire et donc j'ai été déçu. Et c'est que j'ai attendu minuit une pour ceux avec qui j'étais en audio. Ils m'ont entendu hurler. J'ai dit, non, on est le 19, il n'y a pas la mise à jour. Et donc, je suis à ce niveau-là. C'est vrai que je l'ai fait, il était à peu près 11h du matin. Et j'ai la chance de ne pas travailler ce jour-là. C'est beaucoup plus riche visuellement, c'est sûr. Les thèmes que vous avez achetés, parce qu'il y a des gens quand même qui achètent des thèmes, c'est payant sur Xbox Live, ils sont gardés puisqu'ils sont en arrière-plan. Ça garde la même l'interface, la new expérience comme ils l'appellent, est gardée, mais on voit quand même le thème en fond.
En fond.
Il y a les avatars, donc
Ah oui, ça
qui
j'en ai pas parlé,
sont les équivalents des Mii, qui sont dans certains jeux, ils sont intégrés dedans, genre le Uno, où en fait vous avez votre personnage qui réagit si vous prenez des cartes en plus. Enfin bref, donc il commence déjà à intégrer les avatars
Dans
dans
les
les
jeux,
jeux. Sinon, que dire? C'est vrai que c'est un peu plus brouillon. On a un peu de mal à. Mais on va s'y faire. Hein. C'est
Ouais, voilà,
convenu.
exactement.
La liste des amis. Maintenant, vous avez la petite boîte du jeu auquel il joue.
Oui, ben en
Donc,
fait,
si vous avez des amis qui jouent à Halo 3, vous avez la boîte
voilà,
Halo 3,
ouais, ça
etc.
c'est
C'est
assez
pas mal ça.
sympa. Tu l'avais avant, tu savais à quoi ce qu'il faisait, mais t'avais pas la petite boîte, c'est
Ouais,
vrai que c'est beaucoup
c'était
plus
juste en
compliqué.
écrit, tandis que là maintenant on
Exactement.
commence à voir le jeu. Il y a les groupes d'amis aussi,
Et tu peux
donc pour
te
discuter,
créer des groupes
etc.
d'amis, tu peux créer des salons a priori, enfin de communication, enfin de discussion, enfin c'est un truc assez complet quoi. Donc ils n'ont pas fait ça dans la même mesure. Il y a également les jeux communautaires hein, qui sont mis en place. Il y a même des jeux, alors faut que je regarde un petit peu plus en détail, je n'ai pas forcément eu beaucoup de temps pour le faire, des jeux qui sont proposés par la communauté. C'est-à-dire, j'ai trouvé un Tetris, ça commence par des jeux tout cons, hein, un Tetris, un Golf, etc. Alors, ces jeux que tu achètes, ils sont vraiment pas chers, ils doivent être à 200, 300 crédits, donc bon, ça doit représenter 3 ou 4 euros, pas plus, même pas. Et bon, tu retrouves des petits jeux assez sympas. Donc ça, c'est un petit service en plus que je trouve assez intéressant, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est tout bon, hein, de toutes les manières, je ne m'attendais pas à grand-chose, sachant que moi, ça a quand même merdé, j'ai eu des petites merdes pour télécharger du contenu le 19 au soir, et du contenu qui n'était pas accessible, donc bon.
Une saturation.
Voilà, mais depuis, rien à signaler, là, je l'ai essayé tout à l'heure, ça marche vraiment au poil, quoi. Rien à dire.
Ben, moi, en fait, j'ai pas de 360.
Oh l'autre, il n'a pas de
360. Ouais. Et par contre, ben, de ce que j'en ai vu, le premier truc qui m'a frappé, c'est que j'avais l'impression que tout ce qui était affiché, c'était uniquement du online. Enfin, que le online était très présent. C'est-à-dire que je voyais des pochettes, enfin, je ne l'ai pas à la console, mais de ce que j'en ai vu tout à l'heure, partout où j'ai navigué, en fait, il y avait des bandes-annonces de films, il y avait des machins. Enfin, j'ai l'impression que c'est le online qui est énormément privilégié, mis en avant dans l'interface. L'ancienne, je n'avais pas l'impression.
Bah, disons que c'est le meilleur réseau sur les trois consoles, donc ils mettent en avant aussi leurs produits.
Tout à fait.
Là, c'est un réseau payant, donc...
Ouais. Mais si vous voulez, par exemple, c'est un exemple du PlayStation Network, il faut aller dans le menu PlayStation Network pour voir le contenu. Ouais. Là, en fait, j'ai l'impression que le contenu est déjà présent sur la page d'accueil, quoi.
Exact.
Donc, c'est assez hallucinant, c'est très bien pensé. Ça pousse à la consommation, que les choses soient claires.
C'est clair.
Mais ça, Microsoft sait bien faire. L'interface est magnifique. Ça fait beaucoup penser au cover flow d'Apple dans
iTunes. Ouais. Avec un petit côté Wii Style avec les avatars. Ouais.
C'est super graphique. Il y a un effet 2D de profondeur, de champ avec le fond, le papier peint qui correspond au thème.
Le papier peint qui correspond au thème. Ouais.
Top. Ouais. Les menus sur le côté, donc, ils sont verticaux, hein, qui font penser aux Zune de Microsoft.
Oui.
C'est les mêmes menus en fait. Ouais. Avec la partie. Enfin, ce que le menu sélectionné apparaît en plus grand. Donc ça, c'est assez sympa. Non, franchement, rien à dire. C'est super beau. J'ai pas été voir dans les paramétrages et tout ça. Il y a une espèce de menu qui apparaît en surimpression.
On l'avait déjà vu.
Tout à fait. Mais là, pour l'avoir moi touché avec la manette, c'est vrai que c'est pas mal. Il y a cette espèce de menu qui apparaît en surimpression, qu'on soit dans les jeux, dans les vidéos ou autre.
Ça, c'est vraiment très très bien. Et en fait, c'est un truc qui existait pas vraiment dans l'ancienne version. Enfin, c'était vraiment pas mis en exploitation. Ça, c'est extrêmement fonctionnel. Ça permet, quand je suis dans un jeu ou n'importe où finalement sur la console, d'accéder directement. Ben, je sais pas, je suis en train de jouer, je veux accéder directement au téléchargement des démos. Ben, je peux y accéder directement. Enfin, c'est vraiment un truc qui est extrêmement ergonomique. Hein. C'est vraiment très très bien pensé. C'est un vrai plus, quoi.
Ouais, moi, je trouve ça magnifique. Et aujourd'hui, je suis jaloux. La PS3.
Je t'inviterai à la maison. Tu viendras jouer.
Ouais, allez, soyons fous. Mais c'est vrai que je trouve que voilà, en termes d'interface, c'est beaucoup mieux qu'une Wii ou qu'une PS3. Là.
D'accord.
Clairement, il y a eu de vrais efforts. Alors, on va passer maintenant aux produits de la semaine. Toi, Mathieu, tu as retenu quoi comme produit ?
Alors, c'est le keypad pour PS3. Donc, c'est l'équivalent du petit clavier qu'il y avait sur la manette 360. Donc, la Sony a passé le pas. Il serait disponible normalement, donc pas chez nous, mais il serait disponible à partir du 28 novembre. Donc, si vous voulez acheter sur des célèbres sites d'enchères sur Internet.
J'aimerais bien que ce soit en vertical.
C'est mieux.
Là, pour le moment, j'ai qu'un visuel en QWERTY. Donc,
Et pour le prix
malheureusement, on a à peu près une trentaine d'euros. D'accord. Donc, faut voir si ça convient pas moins cher d'acheter un clavier USB et le brancher sur la PS3.
Ouais. Ouais. C'est moins fun, mais bon.
Il y a le petit truc qui va bien. La barre d'espace, elle fait office de touchpad.
Ouais, alors ça, j'attends de voir à l'usage, parce que ça me paraît un peu tendancieux.
Pour la navigation sur Internet, ça peut être pas mal. Mais moi, en fait,
j'attends la barre d'espace, c'est quand même pas grande, hein, donc
faut voir. Moi,
apparemment, elle se connecterait autant sur la 6-axis que sur la DualShock 3.
Ah.
Donc ça, c'est... Ah oui, non, mais il faut quand même penser à ceux qui ont acheté la PS3 à 600 euros. Bon,
Sony n'est pas à une gaffe près. Hein. On parle de la Play TV. Bon, c'est un petit peu chaud en ce moment avec le décodeur TNT HD.
Quand tu tapotes avec ton doigt sur la Play TV, t'entends tuk 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 que c'est vide. C'est sûr, t'as payé ton truc 100 euros. C'est un peu mal, mais bon, après vous avez vu le podcast, c'est vrai que...
Ouais. Mais donc, le keypad, moi, je l'attends pour Little Big Planet.
Ah ouais, carrément pour dialoguer avec
Parce
les.
que là, on peut dialoguer dans Little Big Planet, mais c'est un peu compliqué, quoi. Donc.
Ça met de patience.
Ouais. Et
pareil, toujours le clavier USB, quoi, à la rigueur.
Ouais.
Tu prends un clavier sans fil avec un touchpad, je sais pas ouais, si. Ouais. Faut voir, en fait, s'il y a une compatibilité dessus, donc.
Ouais.
Voilà, okay, c'était okay. Mon accessoire de la semaine. Toi, Cédric, c'est un.
Alors moi, en fait, c'est un frigo communicant. Donc, c'est un peu bizarre comme concept, mais j'ai vu ça aussi cette semaine. En fait, c'est un frigo sur lequel il y a un écran tactile. Avec sur lequel vous pouvez en fait tout simplement mettre des petits post-it. Vous pouvez dessiner au doigt, vous avez un petit stylet aussi pour écrire, vous avez un clavier virtuel aussi pour pouvoir taper des messages. Et en gros, quand la famille passe derrière, ben, vous voyez la liste de courses et ainsi de suite. Et justement, l'idée c'est ok, le post-it est sur le frigo, mais si je veux prendre la liste de courses et faire mes courses avec, comment je fais? Et bien là, en fait, vous avez un petit bouton sur lequel vous appuyez. Qui vous permet de recevoir en fait le post-it par MMS sur votre téléphone. Comme ça, vous avez.
Et si t'as un iPhone,
ben, on peut l'envoyer aussi par mail.
Ah, tu me rassures.
On peut aussi l'envoyer par mail, envoyer des petits dessins.
D'accord.
Par exemple, le petit dernier qui a fait un dessin sur le frigo, on peut l'envoyer à papa sur un MMS ou dans un mail. Voilà, c'est rigolo. Voilà.
Est-ce que ça peut te sortir en Wi-Fi sur ton imprimante?
Alors,
question technique.
Justement, oui, ça devrait être possible. C'est que le début, hein, ce que j'ai vu. Franchement, ça marchait très très bien. Tout au doigt, en fait, c'est un logiciel. En fait, c'est du Windows derrière et c'est un logiciel, une interface Flash qui est devant.
Ah oui.
Ouais. Donc c'est assez bien fait. Bon, c'était vraiment très simple. Hein. Il y a juste des post-it, tout ça, et puis c'était pas super beau, mais on peut imaginer tout un tas de widgets après, des flux RSS. On peut imaginer tout ce qu'on veut, quoi.
La météo.
Écouter de la, ouais, la météo, écouter de la musique, des podcasts ou autre.
C'est énorme.
C'est énorme. Là, en fait, faut savoir que la démo que j'ai vue chez SFR, donc, parce que c'était aussi chez SFR, c'était un IPC en fait qui était caché derrière le frigo, qui faisait office de PC. Mais enfin, l'idée est bonne parce que ça permet d'avoir un frigo avec écran tactile, pas cher. Quand on sait qu'un IPC ça vaut
300 euros,
même pas, ça vaut 250 euros.
Ouais.
C'est une option qui vaut 250 euros. Quoi. Mais bon, voilà, ça peut être sympa. Ouais. Ça risque d'arriver très vite dans nos frigos.
Tu peux imaginer aussi la gestion du stock, etc.
Ouais.
Avec un petit logiciel embarqué.
Là, c'était beaucoup plus simple.
Ouais, vraiment... mais bon, les possibilités sont assez
De pouvoir scanner.
Limitées, quoi.
Ouais, tout à fait.
Carrément, ouais.
Et là, on passe au cadeau de Noël.
Bah oui, c'est bientôt la période.
Hein, donc toi, Mathieu, tu conseilles quoi comme achat?
Alors moi, comme achat, je suis un fan de Dragon Ball, donc ce sera l'intégrale de Dragon Ball GT en 16 DVD.
Yeah.
Donc ça vous coûtera quand même la bagatelle de 60, entre 65 et 70 euros, ça dépend des magasins.
5000 euros, j'ai cru que t'allais dire, j'ai eu peur.
Ouais, 60... Non, 65 ou 70 euros, non.
Ça paraît 65 euros pour 16 DVD, c'est le prix d'un jeu, quoi.
Ouais.
C'est vrai, c'est le prix d'un jeu sur console.
Non, tout à fait.
Et donc voilà, les 16, donc sans moitié slim, comme tous les packs qui sont en vente. Chez Dragon Ball GT, 65 euros pour une intégrale, c'est pas très très cher.
C'est clair.
Voilà. Okay. Par contre, apparemment, il y aurait que en française.
Ah, c'est là, chiant ça.
Ceux qui aiment
La VO.
Apparemment, il y aurait que en française.
D'accord.
Voilà, c'était mon petit truc à moi.
Et on le trouve où ça?
Partout.
Sur l'internet mondial.
Oh.
Ok.
Sur l'internet mondial ou dans les grandes surfaces, ça se trouve.
D'accord. Okay. Facilement quoi.
Voilà.
Très bien.
Oui, là, y a pas de. C'est dans le mode GT en plus, c'est pas.
Ouais.
C'est pas le truc ultra secret, non, c'est vachement démocratisé donc.
Okay,
voilà,
okay.
Voilà. Et Cédric.
Alors non, c'est pas Cédric, c'est Julien.
Julien.
Oh, il s'est planté
Julien,
dans le.
Julien, autant pour moi.
C'est pas grave.
C'est pas grave,
c'est pas grave. J'ai du mal.
D'accord. Okay, okay. Alors en fait, moi, c'est un cadeau de Noël qui est pas. C'est pas mémé dans les orties. C'est la Wii, tout simplement. C'est une console assez sympa.
Mmh.
Et en fait, si je m'achète une Wii. Si on achète une Wii, parce qu'en général les cadeaux de Noël, c'est un truc. Bref, ben en fait, c'est surtout pour jouer à Mario Kart et avoir la rétrocompatibilité GameCube. Parce qu'en fait, je me dis, il y a des purs jeux qui sont sortis sur GameCube. Et actuellement, les jeux genre Wii Fit, etc., moi, ça me botte pas du tout. Quoi.
Ouais.
Je trouve que la portée est assez. C'est des jeux vraiment qui m'intéressent pas plus que ça, dans le sens où je pense que j'y jouerai 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une heure, ça va me plaire, et puis après, ça va rester au placard. Quoi.
En fait, tu as acheté une Wii Mario Kart.
Ouais, exactement, une Wii Mario Kart pour jouer à des vieux jeux et à Mario Kart, qui apparemment, le dernier Mario Kart est mieux que le Double Dash qu'il y avait sur GameCube, qui est plus fin.
Ouais.
Enfin, Dixit.
Sachant que c'est beaucoup plus simple de jouer avec la manette GameCube sur Mario Kart Wii. Hein.
C'est vrai.
Si vous avez essayé de jouer avec le volant, c'est
exactement,
c'est
horrible. Ouais, il faut jouer avec une manette Wii.
Avec
une manette GameCube, en effet. Quoi. Donc voilà, c'est mon petit coup de cœur pour Noël. Et toi, Cédric ?
Alors moi, en fait, je recommande l'achat de la 360.
Oh !
Bah, elle coûte rien.
Elle coûte rien.
Ça y est, il craque.
Le pack le moins cher, il est à combien ?
Comme cadeau de Noël, c'est 179, voilà. Et il y a un remboursement, voilà, de Microsoft de 40€.
Donc là, 140€, c'est le prix d'une DS.
C'est, ouais, exactement. C'est le prix d'une DS, sauf qu'on a une console.
Moins qu'une DS.
Moins qu'une DS, même, ouais. Et on a une console next-gen avec un super menu maintenant, parce qu'elle est tout au milieu du jour. Et puis il y a quand même de très bons jeux, Gears of War 2, enfin bon, voilà. Pour moi, en fait, c'est le cadeau de Noël, même plus qu'une Wii.
Ouais, c'est clair.
Voilà.
Mais bon, vu que j'ai déjà une Xbox, j'ai pas un chine de neige, faudrait pas déconner.
Ouais, exactement. Et on passe au coup de cœur et coup de gueule. Donc, ouais. D'abord, toi, ton coup de cœur, Mathieu.
Donc mon coup de cœur, c'est peut-être un des seuls bons jeux qui est sorti sur PSP cette année.
C'était
Final Fantasy VII. Ah non, faut dire ce qui est. La PSP, ouais, elle est complètement boudée par PlayStation.
Ouais, c'est vrai.
C'est honteux, quoi. Truc, ouais. Donc là, c'est le Final Fantasy VII Crisis Core, hein,
ouais,
qui a complètement bluffé. Je dois être à 25 heures de jeu, je l'ai pratiquement fini. Ouais.
Moi, pour l'avoir vu sur ta PSP,
Je l'avais acheté exprès, en fait, pour la petite histoire. Je l'avais acheté exprès pour monter à Paris pour le Micromania Game Show, parce que le train, c'est long, surtout quand on fait 7h30 Paris-Bordeaux. Bref, passons. On va balancer sur SNCF en même temps. Et donc voilà, le Final Fantasy VII Crisis Core, c'est un action RPG, c'est pas un tour par tour.
Ouais,
ça se passe avant le Final Fantasy VII, donc on croise Cloud, sans spoiler.
D'accord.
On croise le héros du FF7. C'est bien mieux fait, fatalement. FF7 étant sorti en 2007 et en 97, ouais, pardon. Ouais. Et le Crisis Core étant sorti le 19 juin 2008, c'est-à-dire 11 ans plus tard. Fatalement, c'est mieux fait. Les invocations, ils ont des cinématiques qui sont fabuleuses.
Ouais, ils exploitent vraiment bien la PSP, là, ça c'est clair.
Ouais, la PSP est vraiment. Bon, ça m'est arrivé de jouer avec des potes, etc. Ils sont restés scotchés devant la PSP. C'est vrai qu'on n'a quand même pas l'habitude d'avoir des jeux qui l'exploitent autant. Mm. Donc voilà, c'était vraiment mon coup de cœur. Si vous avez une PSP, n'hésitez pas. En neuf, il coûte 40€. Ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver, quoi.
C'est clair.
Voilà, Julien, toi.
Alors moi, c'est un jeu qu'on peut trouver sur le Xbox Live Arcade, ça s'appelle Castle Crusher. Alors c'est un tout petit jeu qui paye pas de mine, comme ça quand on le regarde de loin, et quand on commence à mettre les doigts dessus, franchement ça devient hyper addictif. En gros, c'est tu incarnes un petit personnage, alors ça fait vraiment cartoon au niveau du style. Tu incarnes un petit chevalier qui doit sauver une princesse qui a été, ou un roi, je ne sais plus exactement, qui a été enlevé par des méchants trolls. Alors tu dois donc troll poutrer du troll en veux-tu en voilà en masse. C'est pas un jeu très fin côté gameplay, mais c'est vite addictif par l'ambiance qui s'en dégage. Le fait que ce soit cartoon, c'est assez marrant. Enfin, comment dire, disons que le
c'est décalé.
Ouais, c'est décalé. Il y a pas mal d'humour. C'est super bien réalisé. C'est une vraie personnalité. Ça coûte pas extrêmement cher. Je me souviens plus exactement. Ça doit être une dizaine ou une douzaine d'euros sur le Xbox Live Arcade. Ouais. Ça vaut vraiment vraiment le coup. Donc moi, c'est mon coup de cœur. J'accroche à mort, quoi.
Ok.
Et toi, Cedric ?
Eh ben moi, c'est mon coup de cœur de la semaine, c'est le nouveau MacBook Pro, puisque j'en ai un.
Rien
que
ça.
On enregistre dessus.
Exactement.
Ouais, ben en fait, je m'étais fait voler mon ancien MacBook Pro et on me l'a remplacé cette semaine par le nouveau.
Que demande le peuple ?
Ouais, que demande le peuple. Et en fait, c'est une tuerie. Il est magnifique.
Ouais, il est super.
Enfin, il est hyper performant. Rien à dire, quoi. J'ai pas encore joué dessus, puisqu'en fait, j'ai pas eu l'occasion. J'ai pas eu le temps. Je vais essayer d'installer dessus les Space Siege et autres.
Exactement, oui.
Et autres joyeusetés. Et à mon avis, ça va envoyer du bois parce qu'en fait, il a deux cartes graphiques, donc une 9400M pour consommer peu de batterie et aller jusqu'à 5 heures d'autonomie. Et il a une 9600M GT,
ouais,
qui, avec 512 mégas, qui elle envoie du bois. Et à mon avis, pour faire tourner quelques jeux, je vais essayer un Crysis dessus et tout. Ouais. Ça devrait être.
Alors, il est vraiment beau. Hein. C'est vraiment un beau produit, mieux fini, je trouve, que l'ancien. Et
ouais,
le clavier, c'est à peu près la même sensation que sur un iMac,
ouais,
ou un MacBook. Il est magnifique, rétroéclairé, c'est un très très bel objet,
quoi. Et en fait, c'est vrai qu'en termes de finition, on gagne surtout grâce à la coque unibody, comme ils disent.
Unibody.
Qui en fait est un seul bloc, donc il n'y a pas de vis, rien d'apparent. Quoi. Donc,
alors, moi, un truc que je remarque, c'est le trackpad, il est énorme.
Le trackpad, il est immense. C'est en verre.
En verre, enfin, c'est. Comme d'habitude, Apple, ils font toujours très fort côté matos.
C'est aussi grand qu'un iPhone, je pense. Le vitre voit même peut-être plus
confirmer.
Grand. Ouais, voilà.
Ah ouais, attends, mais c'est exactement la taille d'un iPhone. C'est hallucinant.
Voilà, donc en fait, en gros, vous avez un iPhone comme trackpad.
C'est tout.
C'est assez rigolo, quoi. Donc voilà, ça c'était pour les coups de cœur. Maintenant, les coups de gueule. Toi, Mathieu, ton coup de gueule.
Alors, mon coup de gueule de la semaine, ce sera plus un beat de la semaine. C'est un jeu qu'on avait entrevu au Micromania Game Show. C'était le Tectonic World Tour.
Alors,
en
n'étant
pas fan de Tectonic, là, je vais balancer un peu. C'est sorti le 21 novembre, 40€. J'irai pas plus loin dans les stats, dans les trucs, c'est un jeu de rythme, même, un peu à la DDR. Avec Cédric, on était passé devant le stand, la personne qui s'occupait du stand était désespérée. Il arrivait pas à... Le jeu doit être énorme, hein. Je n'ai pas testé, mais le jeu doit être fabuleux parce qu'il arrivait même pas à meuter les gens, en fait. Il y avait un immense ego tectonique. Ça fait fuir les gens. Donc c'est vraiment mon beat de la semaine. D'accord. Je pense qu'ils vont pas en vendre beaucoup.
C'est quel style? C'est du Dance Dance Revolution, un truc comme ça, non? Où tu dois bouger sur un tapis,
c'est
un comme ça, non?
Alors j'en sais fichtrement rien. Je
t'as même pas été plus loin. J'ai dit oh, c'est ça, une grosse bouse.
Ah non non, là je me. Non, c'est vraiment. Quand j'ai vu ça, j'ai vu la sortie. Je me suis dit bon, ils vont rapatrier des palettes entières de jeux pour les. Ils vont les donner à la fin. Tenez, on vous paye, achetez. Et donc là, c'était vraiment mon beat de la semaine. Mais je le testerai. Je ferai un billet. Tiens,
je
le testerai.
Ok.
Je vous ferai un billet, très cher lecteur.
Okay.
Voilà, pour toi Cédric, c'est...
Alors pour moi, le coup de gueule énorme, c'est Wii Music. On voit la pub à la télé là. En gros, derrière, c'est rigolo, c'est George Michael qu'ils utilisent dans la pub. C'est ça pour toi Julien, mais et c'est assez énorme parce que on joue des instruments avec la Wiimote et compagnie. C'est naze.
Ouais. Alors quand je dis c'est naze, il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de gameplay.
Il n'y a pas de toucher, il y a pas. Enfin, encore un Guitar Hero, ça fait acheter des instruments, tout ça, c'est cher. Mais là, à mon avis, le Wii Music, il doit pas être donné. En plus, franchement, le résultat est minable. On a l'impression d'être en face de vieux sons MIDI pourris. La guitare ressemble pas à de la guitare. L'autre qui joue du pipeau avec sa Wiimote en appuyant sur les touches. Enfin, c'est naze. Franchement,
il n'y a pas d'intelligence. Ils essayent de surfer sur le buzz Wi-Fi, accessoires, machin.
C'est nul.
C'est
moche. Parce qu'on joue avec ses Mi. Bon, ok, ça c'est sympa. Mais voilà, la musique ressemble à rien. Il y a même pas. En fait, pour les paroles, on chante même pas. En fait, ça fait penser à un rock band. Hein, c'est ça le but.
Ouais.
On chante même pas. Il faut. En fait, on joue de la trompette à la place. C'est naze. Des fois, on reconnaît à peine les mélodies. Ça fait vieux fichier MIDI moisi d'il y a 10 ans.
Il y a 10 ans qui était mal encodé.
Là, franchement, c'est une honte de proposer un jeu comme ça, en plus,
Moi, je rebondis un peu sur ton... On parlait de gameplay tout à l'heure, a priori, Nintendo va sortir des extensions pour les Wiimotes permettant d'avoir un capteur de mouvement un peu plus performant.
Ouais.
De manière, parce que c'est vrai que quand on fait des mouvements sur la Wiimote, qu'on le fasse dans un sens ou dans un autre, il n'y a pas une grande différence en termes d'effet sur le jeu. Et le gameplay n'est pas extrêmement fin, quoi. Donc le fait d'avoir des capteurs plus précis permettra d'avoir un gameplay différent. Et donc, pour le coup, si un Wii Music est peut-être mieux exploité, on pourra avoir un rendu différent. Quitte à prendre la batterie avec Wii Music, non
ça, Non, franchement, peut être possible. Franchement, naze. Quoi.
D'accord.
Et toi, Julien, ton coup de gueule?
Alors, moi, c'est. Tu voulais dire, Mathieu?
Non, je voulais rebondir sur Wii Music. On avait vu au MGS, ils avaient fait une espèce d'amphi. Les gens regardaient les gens jouer. Et à la base, c'était pas si mal que ça. Qu'ils avaient vraiment bien mis ça. Les enceintes devaient être pourries. Et en fait, nous on avait l'impression que ça, enfin, pas que les gens s'amusaient, mais à la rigueur, ils se foutaient plus des gens en face. C'est pour ça que quand en fait j'ai vu le jeu tourner en vrai, je me suis dit, c'est pas possible, ils nous ont menti quoi. Ouais. Ils avaient tellement bien mis en condition que s'il faut, il y a des gens qui ont acheté ça.
Ils sont très forts côté marketing, Nintendo.
Ils ont dû acheter ça, cette chose, pour arriver à le vendre. Et c'est vrai que moi je suis tombé de haut là.
Ok, et toi donc Julien?
Donc, ben, en fait, on reste dans
désolé
le.
d'avoir interagi. Donc,
non, non,
mais il n'y a pas
voilà.
de souci, au contraire. En fait, on reste dans le même sujet, moi, c'est concernant la Wii qui est trop chère. 250 euros, une console
oh là là là.
Qui, d'un point de vue performance, elle est has-been, quoi.
Oh, c'est pas
elle est sortie has-been, de manière. Hein. Côté performance, le seul avantage de cette console, c'est l'interface,
enfin,
l'interaction homme-machine, exactement. C'est assez peu les jeux. Et donc, bah, c'est le pendant finalement de mon cadeau de Noël. J'aimerais bien avoir une Wii, mais je la trouve vraiment trop chère. Donc, du coup, je pense que je vais m'acheter une GameCube. Comme ça, je pourrais jouer à mes vieux oldies sans me prendre la tête.
Exactement.
Voilà. De toute façon, c'est une GameCube Plus. Elle ne lit pas les DVD.
Et c'est vrai.
Alors que si vous voulez vraiment acheter un. C'est vraiment pour conclure. Si vous voulez un moment lire les DVD pour pas cher, vous achetez une PS2, quoi.
Exactement.
Parce que là, ça ne lit même pas. Donc.
Ou alors une Xbox.
Une Xbox, parce qu'elle n'est pas chère du tout.
Exactement.
Ou une.
Bon, mais écoutez, merci de nous avoir suivis.
Ouais,
c'était sympa.
Bah ouais, moi j'ai passé un bon moment. On a tenu l'heure, là, on est limite, mais bon, on espère que vous avez aussi passé un aussi bon moment que nous.
Ouais, c'est clair. Et on vous dit donc à bientôt pour un prochain podcast. Ciao Mathieu.
Ciao.
À la prochaine. Ciao.
Ciao.